Nous proposons de reprendre notre message en Éphésiens 6, là où nous l'avions laissé, nous arrêter sur le troisième élément de notre armure spirituelle, à savoir les chaussures. Comme ça, instinctivement, quand on parle d'armure, le premier élément auquel on pense, ce n'est pas spécialement les pieds. Et pourtant, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Littéralement, dans le texte grec, le mot traduit ici par zèle signifie la préparation ou la promptitude, etomassaya, de l'évangile de la paix. Paul nous parle ici de la condition d'une personne qui est prête, préparée, disponible. Et on peut dès lors comprendre pourquoi l'apôtre compare cette disposition aux sandales en cuir que portaient les soldats romains. Un soldat en campagne ne retirait jamais ses sandales parce qu'il devait être prêt en permanence à remplir sa mission, mission qui l'amenait parfois à faire plus de 50 km à pied par jour. C'était l'armée la plus rapide au monde à l'époque. L'armée romaine était effectivement connue pour ses déplacements rapides sur de longues distances. Dans votre quotidien, si quelqu'un vous dit « je suis prêt » ou plutôt « prête », excusez-moi mesdames, « mais je n'ai plus que mes chaussures à mettre », vous savez une chose, c'est que cette personne est tout sauf prête, parce qu'elle n'a pas ses pompes. Le prophète Ésaïe parle lui aussi d'un soldat d'une armée conquérante, donc une armée d'élite. Et certaines caractéristiques de ce soldat d'élite font écho à notre passage d'Éphésiens, et je vous le cite, Ésaïe 5, 27. « Chez lui, donc dans ce peuple guerrier, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort, aucun n'a sa ceinture détachée, rappelez-vous, hein, on a vu la ceinture, ni la courroie de ses sandales cassées. » Pour ceux qui s'intéressent encore un petit peu aujourd'hui à l'histoire militaire, même aujourd'hui, hein, un soldat d'élite, même belge, hein, ça existe, qui ne prendrait pas soin de ses chaussures, il se ferait tuer par son sergent-major. Hein. Si vous ne prenez pas soin de vos chaussures, vous êtes mort, en fait. Parce que, et de vos pieds, par la même occasion. Donc cette promptitude à porter la bonne nouvelle, cet état de veille et d'action permanent doit bien venir de quelque part, pour être tout le temps prêt à. En fait, et c'est très intéressant, cette capacité repose sur l'évangile que possède le chrétien. C'est cet évangile qui lui donne la paix d'agir, parce que cet évangile est l'évangile du Dieu de paix. Il puise sa paix intérieure dans l'évangile. C'est parce qu'il a cet évangile qu'il a cette paix, cette capacité à aller vers l'autre. De là cette expression utilisée par Paul, justement, l'évangile de paix. Ses sandales lui apportent sécurité et agilité pour aller porter l'évangile partout où il y aura un homme ou une femme ne l'ayant pas entendu. Ce qui est probablement le cas de vos voisins, de membres de votre famille, de vos collègues, de vos amis et je ne sais pas encore trop qui encore. C'est donc en l'évangile lui-même que l'on puise, c'est important de comprendre ça, que l'on puise la capacité et le zèle nécessaire de le partager, cet évangile. Il y a donc un ici d'insurmontable ou d'effroyablement difficile, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, ne dit pas autre chose, et je vous la lis, 1 Pierre 3,15, « Mais honorez dans vos cœurs le Christ, comme votre Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. » Au-delà d'aller vers l'autre, parfois l'autre vient vers vous en disant, « Tu ne me parlerais pas de ta foi, parce que moi je ne comprends pas trop bien ce que tu... » Il faut être capable de déballer, hein. Donc rappelez-vous le petit schéma hein, qu'on a vu. Hein. Ça, il faut, à un moment, ça donne une seconde nature, hein, ou même une première nature. Autrement dit Pierre, vivez une vie qui honore le Christ et propagez son évangile, sa bonne nouvelle. Voilà son message. C'est le message de Pierre, de Paul et de tous les autres. Et à l'origine de tout, bien entendu, le message du Christ. Alors, vous me direz peut-être, en tout cas c'est ma réflexion d'aujourd'hui, c'est quoi le message ? C'est quoi l'évangile ? Alors, vous le savez sans doute. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est le sens du mot évangile en grec, euagalion. Hein, vous le saviez sans doute. Donc, en grec ancien, quand on, je sais pas, on n'est pas, je sais pas moi, ta belle-mère est morte, on dit j'ai une bonne nouvelle, evangelion. Mater muerte. Donc Dieu ne nous demande pas, mais il faut vraiment réfléchir à ça, Dieu ne nous demande pas d'annoncer une mauvaise nouvelle. Hein. Il nous appelle, il nous demande d'annoncer une bonne nouvelle. même si pour certains, soyons clairs, elle s'avérera mauvaise tout de même. En effet, quand on rejette la bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle pour celui ou celle qui la rejette. Mais on ne peut pas rejeter quelque chose que l'on n'a pas entendu, bien entendu. Je vous propose maintenant d'écouter Jésus lui-même nous dire quelle est la bonne nouvelle en question, l'évangile que nous devons annoncer. Il faut peut-être retourner à la source. Hein. On va lire ce texte. Certains d'entre vous connaissent ce texte, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème en Jean chapitre 3, et on va lire les 10 premiers versets, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Je vais taquiner. Vous êtes chrétien et vous ne savez pas ça ? Hein ? Je taquine. Le message, il est clair. Hein ? Il est clair, comme de l'eau de roche. Et il est le même aujourd'hui. Dieu ne change pas, il est même aujourd'hui que du temps de Nicodème. N'entre dans le royaume de Dieu que ceux qui sont nés de nouveau, ou nés d'en haut, genao anoten dans le grec. C'est ça la bonne nouvelle. Alors j'entends déjà certains dire, en quoi est-ce une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle parce que l'analogie de la nouvelle naissance, le fait que Jésus emploie cette image de la nouvelle naissance, elle n'est pas anecdotique. En fait, il aurait pu prendre une autre illustration pour définir ce que c'est que la bonne nouvelle. Ce n'est pas un hasard qu'il utilise cette image-ci, cette analogie-ci. Analogie, c'est comparer deux choses. Alors, cette analogie, même pour ceux qui sont passés, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais même pour ceux qui sont passés par cette nouvelle naissance, cette analogie, elle ne frappe peut-être pas jusqu'au bout de ce qu'elle pourrait faire, en termes de compréhension, me semble-t-il. On n'en saisit pas toujours toute la profondeur et la pertinence. En fait, cette analogie contient en elle-même la bonne nouvelle. Jésus nous dit en fait qu'être né, que ce soit physiquement ou spirituellement, est quelque chose à laquelle nous n'avons pas participé. Nous sommes pour rien. Vous n'avez jamais, je vous rappelle ça au cas où vous auriez oublié, vous n'avez jamais rien fait pour venir au monde, j'entends physiquement là, vous ne l'avez pas planifié, vous n'en avez pas discuté avec qui que ce soit. Vous n'avez rien fait qui ait pu, d'une façon ou d'une autre, influer sur votre naissance physique. Je me trompe ? Pour la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, c'est pareil. Vous n'y êtes pour rien, vous n'y pouvez rien, vous n'avez rien fait, rien qui ait pu décider cette naissance d'en haut. Votre naissance physique était totalement hors de votre contrôle. Votre naissance spirituelle est totalement hors de votre contrôle également. Voilà ce que Paul dit à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 5, 17. Dieu, par l'intermédiaire, je résume sa pensée, hein, Dieu, par l'intermédiaire de vos parents et de la reproduction naturelle, vous a fait naître physiquement en ce monde. Le même Dieu, par l'intermédiaire de sa divine volonté et par l'œuvre du Christ, vous avez fait naître spirituellement au royaume de Dieu par le moyen de la foi, cette foi vous étant aussi donnée par Dieu. Et il vous a donné son esprit afin que l'œuvre du Christ puisse être collée, appliquée à votre âme. Je citais 2 Corinthiens 5, 17, Paul dit, vous êtes une nouvelle créature ou création. L'homme ne doit rien faire pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne doit rien accomplir de méritoire pour connaître Dieu et passer l'éternité avec lui. À aucun moment, Jésus ne dit à Nicodème, pour naître d'en haut, pour naître de nouveau, tu dois faire ceci ou cela, prier de telle ou telle manière. Pas plus qu'il ne lui dit comment naître de nouveau. Il ne lui donne pas un mode d'emploi, semble-t-il. Billy Graham, que certains d'entre vous connaissent peut-être, il est mort il n'y a pas tellement longtemps, le grand évangéliste américain bien connu, a écrit un livre il y a quelques années intitulé « Comment naître de nouveau ?». Dans ce livre, Billy Graham énumère les différentes étapes menant à la conversion et donc ce que vous êtes censé faire pour naître de nouveau. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, paf, né de nouveau. Alors, je ne doute pas une seule seconde des bonnes intentions de Billy Graham, mais c'est un évangéliste et pas un pasteur. Il aurait mieux fait de rester dans son domaine de compétences. Oh, pardon, Seigneur, ça m'a échappé. Mais Bible en main, ce que dit Billy Graham dans ce livre n'a absolument aucun sens. Vous ne pouvez pas décider de naître de nouveau parce que cette décision ne vous appartient tout simplement pas. Cette décision est celle de Dieu à la base. Et j'y reviendrai dans un instant. Donc, écrire un livre sur le comment naître spirituellement a autant de sens qu'écrire un livre intitulé « Comment naître physiquement » à destination de bébés qu'ils n'ont pas encore nés. Tu devrais lire ce livre, mon petit, si tu veux que maman accouche. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour Billy Graham, ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, Jésus dit à Nicodème, au verset 8, on l'a lu, qu'il doit naître de nouveau. Mais ce n'est pas un ordre, c'est un fait. C'est le chemin, il n'y a pas d'autre. C'est le seul chemin. Donc la nouvelle naissance est un miracle, vraiment. On parle beaucoup de miracles dans certains milieux aujourd'hui. Ça, c'est un miracle absolu. C'est un miracle opéré par Dieu. Et comme tout miracle, l'homme n'a strictement rien à y voir. Voilà ce que Paul dit aux chrétiens de Rome. Ainsi donc, cela ne dépend, il parle de la naissance d'en haut, la nouvelle naissance. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Romains 9. Et c'est ça que Jésus dit à Nicodème. Mes amis, réfléchissons un instant. Si nous devions faire quoi que ce soit, j'insiste sur le verbe faire. Si nous devions faire quoi que ce soit pour entrer dans le royaume de Dieu, nous tomberions dans la pratique, soit dans la peur et la culpabilité. Est-ce que j'en ai fait assez? Il y en a beaucoup qui sont sur ce modèle-là. Ou dans l'orgueil, j'en ai certainement fait assez pour mériter mon entrée dans le royaume. Nous sommes des hommes, rien d'autre. C'est donc une bonne nouvelle, que nous n'ayons rien à accomplir. Que c'est Dieu qui fait tout. Parce qu'avec la nouvelle naissance vient aussi la paix de se savoir aimé de Dieu, la certitude d'être accueilli par lui dans son royaume. Ce royaume, je le rappelle, qui est le celui du règne de Dieu, de sa grâce, de son salut, du pardon des péchés et de la sanctification de notre être par son Saint-Esprit. Tout ça vient avec la nouvelle naissance. L'homme qui passe par cette nouvelle naissance est donc fait, et c'est Paul qui le dit, récipient, réceptacle, vase, c'est le terme grec, recevant tout ça. Nous portons ce trésor, quoi ? L'évangile, notre salut, dans des vases de terre. Cet évangile est confié à des hommes, vous et moi, et des femmes de chair et de sang, marquées par les maladies, la fragilité, la faiblesse et toutes les contingences terrestres, mais faisant ressortir d'autant plus la puissance de l'amour de Dieu, que nous ne sommes que ça. Et cela justement pour que personne, encore une fois, ne puisse se vanter devant Dieu de quoi que ce soit. C'est un peu le problème des pharisiens, on va y venir. Ils se vantaient quand même extraordinairement fort de leur spiritualité, n'est-ce pas, et de leur intégrité spirituelle. Alors ceux qui ont lu un peu la Bible pourraient avoir l'impression que cette expression « être né d'en haut » de nouveau ne se trouve qu'ici dans l'Évangile. C'est un peu l'impression que beaucoup de chrétiens ont. Ce passage, tout le monde le connaît, on sait que ça se trouve là, plus ou moins, je dis bien plus ou moins. Oui, le truc de la nouvelle naissance, ça doit se trouver en Jean quelque part. Bon, il n'y a pas qu'en Jean. J'ai pris deux textes, il y en a d'autres. 1 Pierre 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. » Ingenao, c'est le verbe en grec. « Naître d'en haut. » À travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jacques 1. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. j'y viens, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie, dans le grec, même verbe, engendré donc, il nous a engendré par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Et il y en a d'autres. Hein. Ce salut, cette source de la vie, elle est en Dieu. Donc elle vient forcément, entre guillemets, d'en haut. Cette source est en Dieu. À partir du moment où elle est en Dieu, comment pourrions-nous, dès lors, participer de quelque manière que ce soit à l'apparition d'une vie que nous ne possédons pas, puisque la vie dont il est question, seul Dieu la possède. La preuve du contraire, il est le seul être éternel. D'accord ? Comment pourrions-nous participer en quoi que ce soit à la réception de cette vie ? On va avancer un petit peu. Ça va jusqu'ici ? Okay. Revenons à Nicodème. Il y a également une ressemblance, une analogie à faire entre Nicodème et bon nombre de nos contemporains d'aujourd'hui. D'après notre passage, Nicodème est un juif pharisien, membre du Sanhédrin, puisque dans l'Évangile, on le présente comme un chef des Juifs, il fait partie du Sanhédrin, et l'enseignant d'Israël. Ah, il faut quand même être conscient d'un truc, hein, ça prend un verset, on peut passer très vite dessus, mais ça veut dire que pour l'époque, c'est le top. Nicodème, c'est le top. On ne peut pas faire mieux. C'est ce qui fait de mieux dans le domaine religieux juif. Pharisien, donc autrement dit membre du parti religieux le plus strict quant à l'obéissance et l'observance de la loi de Moïse, 603 commandements quand même, auxquels il faut obéir. Membre du Sanhédrin, donc du Conseil national de la nation juive, qui ne comptait que 70 membres, c'est quand même très élitiste, il en fait partie de ce conseil. Il est donc l'un d'entre eux. Et alors, cerise sur le gâteau, il est de l'aveu même de Jésus, c'est Jésus qui le dit, l'enseignant, alors pas un enseignant, hein, mais l'enseignant. Et Jésus veut sans doute dire par là que parmi tous les enseignants de l'époque, il est celui qui a la prépondérance. Quand il discute et qu'il y a un truc à trancher, il est probable, au niveau de la loi de Moïse, il est probable que c'est Nicodème qui tranche. Probable, hein, probable. Ce n'est pas rien quand on se rappelle quand même qui fait partie de ce Sanhédrin. Il y a entre autres le fameux Gamaliel. Gamaliel qui n'est rien d'autre que celui qui a formé spirituellement et religieusement Paul, Saul, quand il est juif, dans la foi de ses pères. C'est un calibre, Gamaliel. Eh bien, Nicodème, apparemment, est un plus gros calibre que Gamaliel. C'est donc pas n'importe qui vient voir Jésus cette nuit-là. Mais au fait, et ça c'est très intéressant, on reste dans la bonne nouvelle, hein. Pourquoi vient-il voir Jésus ? Ben, il le dit lui-même, hein, verset 2, « Maître, maître, nous, pas je, hein, écoutez, c'est important, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » C'est déjà pas mal par rapport à tous ceux qui voient les mêmes miracles, qui disent « ce type est un cinglé ». Nicodème croit en Jésus et il veut en savoir plus. Alors comment je sais tout ça ? Parce que justement, il dit « nous savons ». Il n'est pas le seul à savoir. Alors, qui est ce « nous » ? Pour le comprendre, un petit verset. Il faut revenir un peu en arrière, avant cette rencontre, dans la fin du chapitre 2. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, la plus grosse fête juive, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Nicodème fait partie de ceux qui, voyant les signes et les miracles accomplis par Jésus, ont cru. Waouh ! Oui, mais, attendez. Seulement, voilà, il y a un hic. Voilà deux versets qui suivent. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Il n'avait pas confiance. Dans le grec pisteo, il n'avait pas foi. Jésus n'avait pas foi en eux. Il n'avait pas foi dans leur foi à eux, parce qu'il voyait leur cœur. Il savait qui ils étaient. Ils ont la foi en lui, mais Jésus n'a pas la foi en leur foi. Il n'a donc pas la foi en Nicodème. Ce qui signifie que le pharisien n'a pas la foi qui sauve. Il faut être clair là-dessus, hein, pour bien comprendre les choses. Alors je reviens à ma question, pourquoi Nicodème est venu voir Jésus cette nuit-là ? Pour en savoir plus de la bouche de cet homme de Dieu, il le considère comme un homme de Dieu. Sans doute, oui, mais la question reste posée. Sur quel sujet en particulier? Parce que le premier verset, c'est une maître, c'est de l'introduction, ça, c'est du, comme, on dirait aussi du small talk, c'est ça comme ça, hein, de la conversation pour faire en surface, quoi. Quand vous êtes dans le train, bonjour, tu vas bien? Ah oui, ça se passe bien au travail, oui, allez, bonne journée, voilà. Donc, il y a une introduction très respectueuse, mais en fait, cette introduction ne dit rien de la véritable motivation de Nicodème. La réponse à cette question, le pourquoi Nicodème est venu voir Jésus, pourquoi, sur quel sujet veut-il vraiment l'interroger, la réponse à cette question se situe, ça arrive parfois hein, dans l'Écriture, dans ce qui n'est pas dit, dans un saut qu'effectue volontairement Jésus dans la conversation. Et avant d'arriver à ce saut, réfléchissons un moment. Pourquoi un homme religieux comme Nicodème viendrait-il voir un homme de Dieu comme Jésus? À la lecture des évangiles, quelle est la question que posent quasi tous les enseignants de la loi de Moïse à Jésus, et en particulier les pharisiens? Quelle est cette question? C'est toujours la même. Souvent pour piéger Jésus, mais c'est toujours la même question. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? C'est toujours cette question-là qu'ils posent. Encore une fois, pour piéger Jésus. Hein. C'est la question que tous les enseignants de la loi de Moïse posent à Jésus. Là où Nicodème se démarque, et c'est important de comprendre, c'est que lui, malgré son statut, hein, lui ne connaît pas la réponse à cette question. Alors que tous les autres l'ayant posée à Jésus se targuaient de connaître la réponse. Et parfois, Jésus, vous savez, il fait ça souvent, il renvoie la question à son interlocuteur qui vient de lui poser la même question. C'est très juif. Hein. Il vous pose une question et vous répondez par une question. Ça n'a pas vraiment changé, ça. Mais en fait, quand je dis, et toi, quand tu dis, que faut-il faire, maître? Et toi, que lis-tu dans la loi? Et chaque fois, et ils savent, hein, ils savent. Ils citent toujours les deux mêmes textes. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain contre toi. C'est une concentration de deux textes, de Deutéronome 6 et de Lévitique 19. Une sorte de gros résumé. Et ils ont raison. Et Jésus, surtout, super, tu as bien répondu, va et fais-le. C'est toujours la même articulation. C'est toujours cette question qui vient. Mais toujours, hein. C'est vraiment intéressant. Seul problème, c'est que tous ces hommes étaient convaincus, en répondant à Jésus, qu'ils mettaient en pratique ce commandement. Qu'ils aimaient parfaitement et Dieu et les autres. Et malgré toutes les paraboles enseignées par Jésus sur le sujet, comme la parabole du bon samaritain, où ils vont de facto dire qu'ils n'aiment pas les samaritains, ils détestent, ils sont pas dans le commandement, pas du tout. Ils vont continuer à prétendre qu'ils vivent ça. Alors que tout le message de Jésus dans ses articulations, c'est quoi? Par vos propres forces, vous n'arriverez jamais à aimer parfaitement Dieu et votre prochain. C'est au-delà de vos capacités. Vous n'y arriverez jamais. Tous ces hommes, et ils sont nombreux dans l'Évangile, hein, n'attendaient donc pas de réponse de la part de Jésus, parce qu'ils pensaient être dans le royaume de Dieu, après à travers tout ce qu'ils faisaient, et de cet amour énorme qu'ils avaient, éventuellement, pour eux-mêmes et ceux qui étaient de leur propre famille. Jésus le dit dans le sermon sur la montagne, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Bon, ils aimaient leur mère, leur père, et encore, hein. Enfin voilà, la guerre rapprochée, familiale et autres. Et la nation juive pure, même pas les juifs, les gens qui étaient impurs par rapport à la mort. Ah, même pas eux, hein. Et pendant ils étaient humains, oh non, oh quelle horreur. Et alors, pas les païens, moi je ne rentre même pas dans la maison d'un païen. Oh, quelle horreur, moi, je pourrais être contaminé. Bleh. Mais ils étaient convaincus d'obéir à ce commandement. C'est l'aveuglement, c'est quand même invraisemblable. Ce Nicodème faisait donc partie de ceux que Jésus appellera en Matthieu 23, conducteur aveugle, tombeau blanchi, plein d'ossements et de morts, paf, ou encore enseignant, et pharisien hypocrite. Je ne sais pas vous, mais moi, dans l'Évangile, j'ai l'impression d'être un pauvre type qu'un pharisien. Alors, Jésus, il a moins de problèmes avec les pauvres types qu'avec les pharisiens. C'est là que je reviens à mon saut effectué par Jésus qui manifeste qu'il sait pourquoi Nicodème est venu le voir. Jésus, puisque chapitre 2, Il savait ce qui était en eux. Jésus sait très bien pourquoi Nicodème vient le voir. Pourquoi? Parce qu'il lit en lui. Il est un peu Dieu sur les bords, Jésus, quand même. Nicodème n'a pas la foi qui sauve. Il croit en Jésus, mais pas de la manière adéquate. Et surtout, il est venu pour avoir la réponse à une question qui le hante. Il faut quand même vous rendre compte que ça fait... Bon, Nicodème pense que simplement Jésus est un prophète. Et c'est déjà miraculeux pour Nicodème, parce que Nicodème sait très bien que ça fait 400 ans. 400 ans qu'il n'y a plus un prophète en Israël. C'est le premier qui refait des miracles. Donc, il est un prophète, ça c'est sûr, pour Nicodème. Et c'est extraordinaire, parce que Nicodème, il crève de sa question intérieure. Parce qu'il n'y a personne pour lui répondre, il n'y a plus de prophète. Et puis il en voit un, quoi, qui fait les signes d'un prophète. Oh, en voilà un. Donc Jésus va passer outre toutes les convenances. Oh maître, nous, je sais, nous savons que tu es un... Et toi, un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Réponse immédiate de Jésus qui va à l'essentiel. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Paf! T'as à peine dit bonjour, il t'en fout une, quoi. Boum, voilà. En agissant ainsi, Jésus sait qu'il va droit au cœur, et surtout au cœur de la problématique de Nicodème. Parce que malgré toutes ses connaissances, toute son obéissance au commandement de Dieu, contenu dans la Torah, et toutes ses dîmes et toutes ses bonnes actions méritoires, toutes ses responsabilités exercées au plus haut niveau, il sait qu'il a en lui quelque chose qui l'attriste et le désole et qui l'empêche d'aimer Dieu et son prochain parfaitement comme lui-même. Et ce quelque chose, c'est son péché. Et il sait intérieurement, il se lamente, il se flagelle intérieurement. Il sait qu'il n'est pas accepté par Dieu et que ça ne suffira jamais. Et il est dans une impasse parce qu'il n'a pas la réponse. Comment je peux sortir de ça? Jésus sait, il sait. Tout ce que tu fais, Nicodème, toute ta science biblique, toutes tes bonnes œuvres ne t'ouvriront pas les portes du royaume de Dieu. Seule la nouvelle naissance t'ouvrira les portes. Alors, le parabole entre Nicodème et nombreux de nos croyants, je mets entre guillemets croyants, contemporains qui disent croire en Jésus et qui, à coup d'œuvres de bienfaisance et autres actions méritoires, pensent forcer les portes du royaume de Dieu est saisissant. Dernière statistique, 2001, ça remonte. On est 7,5 milliards. Toute obédience chrétienne confondue. On est à vue de nez. On est à vue de nez. À 3,5 milliards de chrétiens perdus qui sont sur ce modèle-là. Sur le même modèle que les pharisiens. Je fais des trucs. Ils ne sont pas responsables, hein. Ils n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Vous savez, vous ne savez pas si vous êtes arrivé quelque part, si vous ne connaissez pas la route et la destination, si personne ne vous explique. Si vous n'avez pas de GPS pour aller en Espagne, à Saragosse, comment vous allez y aller? S'il n'y a pas de carte, si personne ne vous donne la carte et le chemin à suivre. Je cite Paul, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, faire des trucs, faire des choses, que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul, écoutez bien, nul chair, aucun homme ne sera justifié, autrement dit, n'entrera dans le royaume de Dieu par les œuvres. » Ça n'a pas changé, ça. Il y a des milliards de personnes qui sont encore sur ce modèle-là. Personne ne sera justifié par Dieu par l'obéissance forcément imparfaite au commandement de Dieu, en faisant des choses pour Dieu, alors qu'il faut s'ouvrir à ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui compte, ce que lui a fait pour nous. On est justifié par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Autrement dit, le mérite revient entièrement au Christ et à Dieu, et en aucun cas à l'homme, de quelque manière que ce soit. Alors, vous me direz, oui, mais s'il faut rien faire, ok, c'est une bonne nouvelle, hein, si je ne dois rien faire pour hériter du royaume de Dieu, pourquoi faudrait-il encore aller porter l'évangile? Alors, c'est une question idiote, hein, mais enfin, je crois qu'il faut quand même se la poser. Pourquoi est-ce que je devrais encore aller prêcher l'évangile, si c'est Dieu qui fait tout? Revenons à notre entretien avec Jésus, entre Jésus et Nicodème. Et que Dan lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et forcément, lui, il reste à un niveau terrestre. Il dit, attends, il veut naître de nouveau. Il dit, comment je peux retourner dans le ventre de ma mère? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà l'outil pour entrer, la clé. En fait, Jean en énumère deux, mais c'est la même. Il y a un outil utilisé par Dieu pour réaliser le miracle, parce que c'en est un, de la nouvelle naissance, l'eau et l'esprit. On a souvent rapproché la mention que Jean fait ici de l'eau du baptême. Le seul problème, c'est que dans les écrits de Jean, l'eau fait référence à la nouvelle naissance, autrement dit à la régénération opérée par l'esprit, la purification qu'il opère. On est donc plus ici dans l'expression de l'effet que produit l'action de l'esprit. Pour le dire autrement, on pourrait traduire le texte grec par nous rentrons dans le royaume de Dieu, on est de nouveau par l'œuvre régénératrice de l'Esprit. La nouvelle naissance est donc produite par l'action de l'Esprit-Saint. Et de là, ce que dit Jésus à Nicodème, ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Dans la procréation naturelle, ce sont les parents qui transmettent la vie, nous sommes d'accord, hein, même si la source de cette vie aussi est en Dieu. C'est les parents qui transmettent la vie dans la naissance spirituelle, c'est l'Esprit Saint qui transmet la vie. Vous suivez? Confirmation, par le même Jean, un peu plus loin, chapitre 16, verset 8. Quand il, dont le Saint-Esprit sera venu, dit Jésus, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On va réfléchir une minute. Vous me direz que tu nous vends beaucoup de réfléchir aujourd'hui. Comment un homme pourrait-il s'ouvrir à l'existence de Dieu de sa propre initiative? La plupart de nos contemporains n'ont rien à foutre de Dieu, nous sommes d'accord. Comme un homme perdu dans son péché, ce péché qu'il aime, même s'il le détruit, il aime souvent son péché, et un environnement qui l'aveugle, c'est certainement vrai la société actuelle, ce que la Bible appelle en termes génériques le monde, pourrait-il prendre conscience de son péché, de son aveuglement et de son besoin de Dieu, si ce n'était pas le rôle de l'Esprit-Saint de le lui faire comprendre? Sans aide extérieure, il ne pourrait pas, sans aide extérieure, faire tilt et commencer à réfléchir sur son état. Comment la vie d'un être pourrait-elle être bousculée au point de tout changer, d'opérer un demi-tour radical, si l'Esprit de Dieu n'était pas à l'œuvre, si la troisième personne de la Sainte Trinité n'était pas à l'œuvre? Ce serait tout à fait impossible. Ceci dit, on pourrait encore se poser la question, pourquoi aller parler de l'Évangile, puisque le salut a sa source uniquement en Dieu et qu'il le réalise par l'action de l'Esprit-Saint. Ok, l'Esprit-Saint intervient. Ok, ben, en quoi je suis encore concerné, quoi? Pourquoi est-ce que je dois encore aller parler de l'Évangile? Ben, je recède la parole à Paul, pour être complet. C'est Paul qui le dit. Paul, il passe son temps à prêcher l'Évangile. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Il fait une réflexion par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, c'est un texte d'Ésaïe, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas oublié la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a créé notre prédication, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Ils n'entendent pas la parole de Dieu, ils croiront en rien. C'est QFD. Les hommes doivent entendre la parole de Dieu. Ils ne doivent pas entendre « Jésus t'aime, c'est bien » ou « Dieu t'aime, oh, super ». Si vous arrêtez, ça c'est facile. Moi je m'en joue rien fou. Oui, mais c'est dommage, tu n'as rien fou parce que tu sais, Dieu il t'aime. C'est bien. Si c'est tout, ça ne va pas le faire, les gars. Ça ne le fera vraiment pas. Ils doivent entendre parler de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix pour eux. Ils doivent entendre. Et ça ne devrait pas nous étonner, puisque, accessoirement, Jésus est la parole de Dieu faite chair, qui s'est incarnée, et que le monde n'a pas reçu, déjà. De plus, comme le dit le psaume 14, que nous avons cité en introduction, les hommes ne cherchant pas Dieu, il faut que Dieu s'approche d'eux. Ils ne le cherchent pas, pour la grande majorité d'entre eux, il faut donc que Dieu prenne l'initiative. Et il le fait par sa parole. La nouvelle naissance n'est possible qu'en entendant la parole. Et croyez-moi, il y a malheureusement de moins en moins d'endroits où l'on entend et où on la prêche, la parole devient rare, même dans l'Église. Rappelez-vous la parabole du semeur. Rappelez. Le semeur sort pour semer. Normal pour un semeur. Il sème partout, même dans les endroits les plus improbables, hein, dans les pierres. Donc, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle, vraiment. Dieu, il sème. Quoi. Il sème vraiment. Alors, le semeur dans la parabole, vous le savez comme moi, c'est Jésus. Et par extension, et appel, et vocation, c'est aussi tous les chrétiens nés de nouveau, car possédant l'Évangile, ils possèdent la semence, donc c'est à eux de semer. La semence, c'est donc l'Évangile. Quatre terrains sont ensemencés avec des résultats très différents, puisque Jésus dit que trois d'entre eux, c'est beaucoup, hein, 75%, trois d'entre eux reçoivent la semence, entendent la parole, mais ne reçoivent pas la parole. Elle ne prend pas racine en eux. Ils entendent, mais ils ne croient pas. Il faut donc comprendre qu'entendre vraiment, comme Jésus demande que l'on entende, ça signifie embrasser et croire la parole afin qu'elle descende dans le cœur. Il faut croire à cette parole. D'ailleurs, si vous vous rappelez, Jésus termine cette parabole par cette fameuse formule dont on ne comprend strictement rien, tellement elle est devenue habituelle, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça ne vous choque pas, ça? Quand on se regarde tous, on a tous des oreilles. Jésus, non. Il y en a certains qui n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont pas de conduit auditif. Ils n'ont pas d'oreilles. Certains entendent, certains n'entendent pas. Comment est-ce possible? 1 Corinthiens 2, 14, Paul. Mais l'homme naturel, l'homme sans Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. On en parlera dimanche. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est l'état de l'homme. Incapable de capter quoi que ce soit qui vient de la part de Dieu. On peut donc entendre la parole sans l'embrasser et y croire. Bien sûr, des quatre terrains, des quatre cœurs, trois ne portent pas de fruits. C'est ce que Jésus dit. En fait, c'est recevoir et croire la parole qui distingue un croyant d'un non-croyant. Tous ne croiront pas, dit Jésus, mais tous entendront. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas d'oreilles. Alors j'aimerais boucler la boucle. Jésus parle de fruits dans cette parabole. Je ne l'ai pas lu avec vous parce qu'elle est longue et puis voilà, vous la connaissez, je pense. Quels sont les fruits dont parle Jésus dans cette parabole? Dans le contexte de cette parabole, c'est quoi les fruits dont il parle? Il est clair, me semble-t-il, qu'il s'agit de l'expansion du royaume de Dieu. Le royaume est grand, s'agrandit par l'ensemencement des terrains. Et comment s'étend le royaume? Une âme à la fois, un homme, une femme née de nouveau à la fois, par la proclamation de l'Évangile et l'action du Saint-Esprit. Il est donc clair, dans le contexte de notre parabole, que les fruits dont parle Jésus, dans cette parabole, avec un rapport, dit-il, de 30, 60, 100 pour 1, extraordinaire ça, hein, ce sont des conversions. Donc il y a trois terrains sur quatre qui ne reçoivent pas. Oh mon Dieu, 75%. Oui, mais dans le terrain qui reçoit, le rapport d'expansion, c'est 30, 60, 100 pour 1. Donc c'est pas grave si trois, en limite, hein, c'est pas grave si trois terrains n'entendent pas et ne portent pas de fruits. Parce que celui qui va entendre, celui-là, il va porter 30 fois, 60 fois, 100 fois de plus de semences. C'est génial ça, hein. Vous êtes ceux qui sont passés par cette naissance ce matin, qui savent qu'ils sont passés par cette nouvelle naissance, ils sont ce terrain. Où en est votre rapport de croissance? Les fruits, dans ce contexte-là, en tout cas de cette parabole, ce sont des conversions. Et rien d'autre. Des gens qui entendent, parce que d'autres vont porter l'Évangile en semence, et d'autres personnes qui, en ayant entendu, étant ce quatrième terrain, viennent à l'Évangile. Alors, on va revenir, j'en discuterai, on en reparlera dimanche parce que je ne suis pas idiot, hein. Je sais bien qu'il y a des soucis. Vous dites peut-être que vous êtes incapable de partager votre foi. C'est pas ce que Jésus dit. Alors, à un moment, il faudra décider entre croire à ce que Jésus dit ou croire à ce que nous, on se dit à nous-mêmes. Alors, imaginons, je suis incapable, ok. Alors, pourquoi? Je vais vous le dire, c'est très simple. C'est pour ça que En faisant ça, je me dis, bon, je vais devoir prendre du temps. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Sur justement cette problématique. Mais je vais vous dire pourquoi vous ne prêchez pas l'Évangile. Vous avez honte de l'Évangile. Vous en avez honte? Mais ce n'est pas un jugement. Hein. Je ne suis pas en train de dire « Oh, les vilains !» Pas du tout. Hein. Vous, vous en avez honte. Vous auriez le remède contre le cancer, tout le monde le saurait. Mais l'Évangile, le remède contre le péché de l'âme, pourquoi vous avez honte? Je vais vous le dire. Parce que c'est un message dur, dur, mais dur à proclamer. Mais c'est terrible. C'est dur à proclamer sans être rejeté, sans être tourné en ridicule. C'est terriblement dur. Personne n'a envie de passer pour une andouille. C'est pour ça que vous vous taisez. Vous avez honte, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Voici ce qu'a dit Martin Lloyd-Jones, un pasteur méthodiste gallois. Il est beau le pays de Galles derrière, pour ceux qui ont été. Si vous n'avez jamais eu honte de l'Évangile, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien admirable, mais parce que vous ne compreniez pas l'Évangile. Si vous savez ce que c'est le message, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il est mort, il a donné son fils sur une croix. Crucifié. Pour que tu aies la vie éternelle. Ça, je résume à fort, là, bien sûr. C'est ça, le message. En gros, hein, très gros. Et pour ça, dimanche, je vais vous expliquer déjà, parce qu'on dit parfois, quand on discute de ça, il y a des chrétiens qui savent que c'est un problème, qu'ils ne parlent pas de leur foi. Et à un moment, ils se disent, est-ce que c'était plus facile du temps de Paul et en premier essai, les apôtres, des machins? C'est peut-être plus facile parce que tout le monde, même s'ils croyaient en des idoles, ils croyaient un peu qu'il y avait quand même un machin qui tourne au-dessus de nos têtes. Et c'est la pire période pour prêcher cette croix, c'était le premier siècle. Hein. Ça, je ne vais pas vous faire le message dimanche prochain, mais... Si vous n'avez jamais eu honte de l'Évangile, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien admirable, mais parce que vous ne comprenez pas l'Évangile. Moi, si je n'ai pas de problème, c'est parce que les gens ont peur de moi. Donc même s'ils me prennent pour un fou, et c'est déjà arrivé, je ne suis pas idiot, ils ne vont jamais oser me le dire. Donc ça m'aide. Mais je ne suis pas idiot, hein. J'ai la tête que j'ai. Même quand je suis plein d'amour, j'ai toujours la tête que j'ai. Mais, parce qu'il faut bien terminer aujourd'hui, il n'en demeure pas moins vrai que tout obstacle réel avéré chez nous et chez les autres, une chose et une seule reste vraie. Et ça, il va vraiment falloir le faire descendre dans vos cœurs. Hein. L'important n'est pas ce dont vous vous sentez capable ou pas. L'important, c'est ce que vous avez reçu. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Jésus dit. Ça, c'est une expression qu'on connaît bien. Vous avez reçu la vérité de Dieu. C'est ça la lumière dont Jésus parle. Et vous, Jésus dit, vous la cacheriez, cette lumière? Vous la mettriez sous un seau, suivant les textes, en dessous de la table? Enfin, quand on pense à ça, réfléchissez. Vous allumez une lampe chez vous, pour qu'il y ait de la lumière, puis juste après, vous mettez un sac dessus, pour qu'elle n'éclaire pas. Qui allume une lampe ou une bougie pour ensuite s'arranger pour que celle-ci ne brille pas? C'est ça l'argumentaire de Jésus. Ça s'appelle un oxymore, hein. J'ai une lampe, mais elle ne brille pas. Autre oxymore. Les Français ne sont pas orgueilleux. Vous serez content d'avoir un four qui ne cuit pas? Une essoreuse qui n'essore pas? Une machine à laver qui ne lave pas? Mesdames, ça a duré combien de temps? Je dis, mesdames, je sais qu'il y a des hommes qui font leur lessive. Hein? On est au 21e siècle quand même. Combien de temps ça durerait avant que vous balanciez le truc? Si j'ai reçu la vérité de Dieu, c'est ce que Jésus dit, je ne peux pas, parce que cela n'a pas de sens, la cacher aux autres. Je suis une lampe. Ça veut dire que ma fonction, c'est de briller. C'est ma fonction, c'est ma raison d'exister. C'est ça ce que Jésus dit. Vous êtes la lumière du monde. Vous servez à ça. C'est votre fonction. Rappelez-vous, et je termine en disant ça. Encore une fois, ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit. Je sais que c'est difficile et c'est pour ça que je ferai un message spécialement là-dessus dimanche. Rappelez-vous que 90% de votre temps, vous vous retrouvez dans des endroits avec différentes personnes et que la seule lumière qu'ils possèdent pour les éclairer, la seule lampe dans la pièce de disponible, c'est vous. Les chrétiens sont minoritaires. Les autres sont plus nombreux. La seule lampe, là où vous êtes, qu'ils possèdent pour les éclairer, c'est vous. Je sais pas comment, j'ai pas les détails comment ça se passera après, quand le royaume sera vraiment là. Mais je n'ai aucune... Enfin, si j'espère croiser des gens que je ne m'attends pas à voir, parce que ça voudra dire que Dieu est encore plus grand que je ne pense. Mais vous imaginez quand vous croisez des personnes que vous connaissez parfaitement bien, que vous avez passé du temps ici, et qui vous croient, qui vous disent, et c'est sympa, mec, hein, tu savais, tu ne m'as rien dit, quoi. Super. Hein. Tu savais. Toi, tu savais. Et tu ne m'as rien dit. Mettons nos sandales. Hein? Il est temps. Vous ne pensez pas? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.